100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, les migrants sont-ils doublement victimes du contexte de pandémie mondiale? Plus précaires et donc plus exposés, bloqués dans des pays aux frontières fermées. En Grèce, par exemple, voilà 3 mois et demi que les milliers de migrants parqués dans des camps surpeuplés sont mis en quarantaine forcée par le gouvernement, et ce, alors que le pays est en train de se rouvrir aux touristes. En Turquie aussi, le constat est amer. Chaque année, des centaines de milliers de migrants rejoignent Istanbul, ultime étape avant l'Europe. Mais avec l'épidémie de nouveau coronavirus et le renforcement des contrôles aux frontières de la Grèce, la plupart se retrouvent bloqués depuis des mois dans des situations particulièrement difficiles. C'est le cas d'Amadou, un jeune Sénégalais qui s'est confié au micro de notre correspondante Anne Andlauer.
Bonsoir.
C'est pas facile, c'est un peu dur. Au bout du fil, Amadou répète ces mots. Mais plus il avance dans le récit des 4 derniers mois, plus on se dit que le jeune homme atténue dans sa voix les épreuves qu'il a traversées. Amadou a quitté Dakar, au Sénégal, il y a 5 ans. Il a d'abord vécu au Maroc, avant d'atterrir à Istanbul il y a 9 mois, avec un visa de court séjour. Il a 28 ans, il rêve d'aller aux Pays-Bas. Mais l'étape la plus difficile de ce voyage est devant lui, entrer en Europe, illégalement, par la Grèce. Le 28 février dernier, lorsque les autorités turques annoncent sans crier gare que les portes sont ouvertes, Amadou et des milliers d'autres se précipitent à la frontière. Certains réussissent à passer, mais la plupart sont arrêtés par la police grecque, qui les renvoie vers la Turquie. Pour Amadou, c'est la première désillusion. 2 fois, il passe, 2 fois, il est repoussé. Le constat est amer, au lieu d'ouvrir les portes comme elle le prétendait, la Turquie a contribué à les verrouiller davantage.
Ils ont serré, on déploie, vous voyez, la frontière commence à renforcer, il y a des hélicos, le grillage a été renforcé, tout ça. Auparavant, c'était facile. Quand j'arrivais, il y avait pas mal d'amis à moi, des Marocains, qui ont réussi à passer. Mais depuis qu'ils ont ouvert, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir, et puis là, les Grecs, ils ont changé de tactique là. Et aussi, c'est pas pour les critiquer, mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien avec les immigrants. Ah, ils vous malmènent, ils vous frappent, ils prennent ce que vous avez. Ah, imagine-toi, ils nous ont enfermés dans comme un camion citerne là, de trucs là-bas. Il y avait même pas d'aération. On est resté 2 jours dans un taudis, vraiment. Tu fais tout dedans, tu peux même pas sortir. On te rapatrie vers la Turquie.
Lorsqu'Amadou rentre à Istanbul, mi-mars, la Turquie dépiste son premier cas de nouveau coronavirus. Les mesures arrivent vite. Confinement partiel, fermeture de la plupart des lieux publics et de nombreux lieux de travail. Amadou, employé illégalement dans une petite fabrique de sacs, se retrouve sans revenus.
Vous savez, surtout quand les ateliers sont fermés, on ne pouvait plus travailler. Et puis le gars de la maison aussi était très exigeant. Il ne voulait rien comprendre de la situation. Bon, il venait tout le temps et demandait.
Le gars de la maison, c'est le propriétaire qui les menace d'expulsion si lui et ses colocataires ne paient pas leur loyer. Amadou, qui n'a toujours pas repris le travail, se serait retrouvé à la rue s'il n'avait pas bénéficié de l'aide du groupe de solidarité de Tarlabacheux. Cette structure informelle a aidé des centaines de migrants à se loger, se nourrir, mais aussi à se procurer des masques et du gel hydroalcoolique. Mohamed Sedek Yachar, l'un des fondateurs du groupe, décrit des conditions de vie dramatiques en pleine épidémie.
À cause du confinement et de l'arrêt des activités du secteur informel, la quasi-totalité des migrants s'est retrouvée sans travail. Sur 1 million de personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, une seule a continué à travailler. L'épidémie a engendré de nombreux traumatismes. Ne plus pouvoir se déplacer, ne plus pouvoir travailler, être expulsé de son logement. Soit parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer le loyer, soit parce qu'on les soupçonne de porter le virus. Beaucoup de migrants ont connu la faim pendant cette période.
Amadou le reconnaît, s'il n'avait pas dépensé son épargne dans ses 2 tentatives pour franchir la frontière, environ 1000 euros gagnés durement en travaillant 13 heures par jour, 6 jours sur 7, pour 50 euros par semaine, les conséquences économiques de l'épidémie auraient été moins dures pour lui. Pourtant, Amadou n'a qu'une idée en tête, retenter le passage, mais pas tout de suite.
Financièrement, je suis plat, et puis bon, j'ai perdu beaucoup d'argent. Le corona, en quelque sorte, l'épidémie a eu beaucoup d'impact, a impacté négativement sur notre vécu quotidien. Ce ne sera pas facile de repartir sur une autre aventure comme ça, étant donné que cela nécessite des fonds pour économiser aussi, voilà.
Mohamed Sedek Yachar, qui vient en aide à une partie de ces dizaines de milliers de migrants bloqués à Istanbul, ne s'attend pas à une baisse des tentatives pour gagner l'Europe au cours des prochains mois. Au contraire, explique-t-il, les effets de l'épidémie sur l'économie turque, notamment le secteur informel, risquent de les pousser à quitter le pays au plus vite.
Le chômage déjà élevé, qui risque de s'aggraver en Turquie après l'épidémie, les difficultés croissantes pour se nourrir et se loger, ce sont autant de facteurs qui motivent les départs et vont obliger, en quelque sorte, de plus en plus de migrants à tenter de gagner l'Europe.
Et ce, alors même que le long voyage qui attend ceux qui entrent en Grèce sans se faire arrêter décuple les risques d'infection au nouveau coronavirus chez ces migrants déjà fragiles.
Terra di Calabria, sto per arrivare, corre come un treno pure il cuore. Terra di famiglia, terra del mio mare, vedo già le stelle e le lampare.
L'annonce avait soulevé un vent d'espoir en Italie. Mi-mai, la ministre de l'Agriculture, Teresa Bellanova, annonçait la possible régularisation de dizaines de milliers de travailleurs migrants employés dans les champs ou auprès des personnes âgées. Extrêmement attendue par les travailleurs migrants, mais aussi les associations qui n'avaient pas vu de décret de régularisation depuis 2009, près d'un mois et demi après son annonce, la mesure fait de nombreux déçus. Le reportage de Cécile Debarge.
Le long de la route qui mène de Syracuse à Cassibile, au sud-est de la Sicile, dans l'enceinte d'un ancien bâtiment dont il ne reste que quelques murs branlants, des habitations de fortune s'étendent sur la terre battue. Des cartons ont été collés les uns aux autres pour dresser les murs recouverts par des bâches de plastique transparentes. Des cagettes posées par terre servent de chaises ou de tables. Des bidons contiennent les quelques réserves d'eau récupérées quelques dizaines de mètres plus loin du tuyau d'arrosage qui est le seul point d'eau du campement.
C'est très simple. C'est un endroit où même des animaux ne pourraient pas vivre. Et pourtant, sous ces tentes, il y a des êtres humains. Ça veut dire que nous sommes invisibles.
Yoron Dao connaît ce campement comme sa poche. Ce Sénégalais travaille comme médiateur culturel pour l'ONG Intersos, présente sur place depuis le 1er juin afin de fournir une assistance sanitaire aux quelques centaines de travailleurs agricoles qui y vivent. Son collègue, Damiano Marchisio, est travailleur psychosocial.
Tous les ans, depuis au moins 25 ans, environ 500 migrants viennent pour travailler dans les champs de la province de Syracuse, mais aussi de Raguse et de Catane. Ils arrivent à partir de février, surtout pour la récolte des pommes de terre et des fraises, jusqu'au mois de juin.
La majorité d'entre eux vient du Soudan, du Maroc, du Sénégal et de Gambie. Environ la moitié n'a pas de permis de séjour et pourrait être, en théorie, éligible à la régularisation qui vise en particulier les travailleurs agricoles. Dès son annonce, la mesure a créé de forts espoirs, explique Ahmed Bachir Ali, un travailleur agricole tchadien de 33 ans, dont le permis de séjour est valable jusque 2022.
Quand le décret a été annoncé, ils ont tous fait les démarches pour avoir des papiers, parce que quand t'as des papiers, tu travailles. Pas de papiers, tu ne travailles pas. Jusqu'à 2 ans, tu pouvais travailler sans papiers, mais maintenant, il y a de nombreux contrôles.
La mesure de régularisation est inscrite à l'article 103 du décret relance censé proposer des solutions pour faire repartir l'économie italienne fortement mise à mal par le confinement imposé lors de l'épidémie de Covid-19. Simona Cacho est la présidente de l'association Archi de Syracuse. Depuis 2009, elle s'occupe d'une permanence juridique et administrative pour les migrants.
Dans tous les cas, il trouvera un employé. S'il en perd un, il en retrouvera un autre. Et surtout, il n'a pas forcément envie de faire savoir qu'avant, il faisait travailler au noir, parce qu'il a peur. Et puis, il n'a pas d'intérêt économique à le faire.
L'employeur doit en effet s'acquitter de 500 euros pour régulariser son employé. Cela signifie aussi qu'il paiera ensuite des charges sur les prochains salaires. Lorsque l'employeur refuse la régularisation, l'alinéa 2 prévoit que le travailleur demande lui-même un permis de séjour de 6 mois pour recherche d'emploi. Simona Cacho.
Il faut prouver qu'on a travaillé au noir dans l'agriculture, la pêche ou bien le soin aux personnes. Alors si on prend l'exemple du soin aux personnes, il n'y a aucune preuve. Très souvent, c'est un travail au noir sans le moindre papier, sans même un reçu, avec des salaires payés en espèces. Donc vraiment, sans aucune trace de quoi que ce soit. Et pour moi, cette condition est la plus dure à remplir.
Et c'est quello più difficile da dimostrare per me.
Bon palazzo, Giovanni.
Même problème pour les travailleurs agricoles dont les salaires et les conditions de travail se décident en quelques minutes à l'oral, comme le décrit Ahmed Bachir Ali.
Après avoir commencé le travail, le patron a dit « La journée, c'est 45 euros. Tu veux travailler ? Si ça ne te va pas, tu pars. Mais toi, t'as besoin de travailler. Il n'y a rien d'autre à faire, donc tu travailles pour 45 euros. Ensuite, tu payes 5 euros pour le transport. Il te reste 40 euros. Et ensuite, le patron se met d'accord avec l'intermédiaire et lui donne la moitié de ce qu'on gagne. »
Cet intermédiaire, c'est le caporale, une pratique courante dans le secteur agricole en Italie, qui précarise davantage encore les travailleurs, qu'ils aient ou non des papiers en règle. Car sans eux, et donc sans les payer, pas de travail. Pour Yoron Dao, ce décret de régularisation n'est pas la solution.
Ça n'a rien changé, rien du tout. C'est comme, par exemple, ce fameux bonus pour les travailleurs pendant la pandémie de Covid. De nombreux travailleurs ne l'ont pas reçu. Il y a toujours la série A et la série B.
Au camp de Cassibile, le décret n'a changé ni les conditions de travail, ni les conditions de vie des migrants. Contrainte de déménager au fil des saisons à travers tout le pays, avec une paie qui se réduit à une vingtaine d'euros par jour une fois que les intermédiaires se sont payés, même les travailleurs en règle, comme Ahmed Bachir Ali, n'ont souvent pas les moyens de vivre ailleurs que dans les baraques faites de bâches plastiques et de morceaux de bois glanés.
À chaque endroit où on travaille, on pourrait construire un grand camp où tous ceux qui travaillent peuvent venir. Il y aurait de l'eau, de l'électricité, une douche chaude. Comme ça, on peut travailler, se laver et se changer, vivre comme des êtres humains. Alors qu'ici, tu as vu comment on vit comme des animaux.
À la fin de la saison, tout le camp sera détruit et réinstallé en février prochain. À ces problèmes structurels qui durent depuis le début des années 90, le décret ne répond pas. Yoron Dao.
Ce décret, c'est du papier toilette, à utiliser et à jeter. Ils sont malins, c'est une manière de donner un permis de séjour pour 6 mois. Car pendant ces 6 mois, j'ai besoin de toi pour travailler. Mais ensuite...
Et puis... Au 30 juin, le gouvernement italien a annoncé avoir reçu plus de 80 000 demandes de régularisation. Seules 3 231 demandes ont été faites à l'initiative des travailleurs migrants. L'écrasante majorité est donc du fait des employeurs, dans 88% des cas dans le secteur des soins à la personne et seulement 12% dans le secteur agricole.
Avec un virus qui circule toujours, la plupart des grands festivals en Europe ont été forcés d'annuler. Mais parmi les exceptions, il y a le plus grand festival de théâtre du Portugal. Almada, c'est son nom, il se tient près de Lisbonne, il est maintenu et pour limiter le nombre de spectateurs, le festival a tout simplement choisi de prolonger sa programmation sur 4 week-ends au lieu de 2. Notre correspondante Marilyn Darcy a rencontré les organisateurs.
Almada aura bien lieu et cela tient du miracle, ou plutôt de la volonté des organisateurs et surtout du public. Rodrigo Francisco, directeur du Festival d'Almada.
C'était difficile parce qu'on n'était pas sûr de ce qui arriverait. Pendant le mois de mars, avril, on était en contact avec les troupes étrangères, mais même au Portugal, il n'existait pas la certitude que le théâtre pourrait réouvrir. Alors, à partir du moment qu'on a la nouvelle que le théâtre pourrait réouvrir à partir du 1er juin, on a contacté tous les spectateurs, les gens qui achetaient l'abonnement, pour les demander « Est-ce qu'on fait le festival ? Est-ce que vous venez ?» Et ils ont dit que oui, on va venir.
Londres estava coberta de um avermelhado verão quando o meu amigo Richard me tocou à porta. Ele tinha vindo do estrangeiro há um ano e estava sem trabalho.
La dimension internationale est réduite à 3 compagnies, 2 espagnoles et 1 italienne. Mais pour Rodrigo Francisco, l'essentiel est de pouvoir revenir à l'esprit du théâtre.
Quand tous les problèmes ont commencé, la première chose que les gens ont dit, c'était « mais c'est pas possible d'avoir des étrangers ». J'ai malgré tout réussi à avoir encore ces spectacles étrangers pour donner ce signe qu'il ne faut pas tomber dans le nationalisme, il faut être avec l'autre, parce que c'est l'esprit des festivals de théâtre qui ont été créés dans l'après-guerre, comme Avignon, d'être ensemble, d'être en dialogue avec les autres. Et je trouve que c'est la seule la seule solution pour cette crise qu'on traverse, c'est la capacité d'être en dialogue.
Molière, Tennessee Williams, Dario Fo vont côtoyer la création portugaise à l'excellence reconnue. On pourra voir entre autres By Heart de Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne. Il fait d'ordinaire monter des spectateurs sur scène. Il a dû repenser sa mise en scène et bien plus.
Est possible. Ao vosso alcance. Dito isto, quem tomar a decisão de...
Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut encore faire. Les choses qu'on ne peut pas faire, il faut juger si elles privent un tel spectacle de l'essentiel. Et celle-là, on peut faire des prophéties, mais on ne sait pas. Comment va-t-on lire ensemble, public, artiste, dans une salle de théâtre, quelques événements comme quelqu'un qui se touche, quelqu'un qui parle d'être ensemble, l'intimité, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, à quel point ça sera lu autrement. Et alors, je pense que là, il y a tout un travail qui est de penser, qui est presque philosophique, de réapprendre collectivement à penser certaines choses. Et là, on est à l'essence du théâtre.
Almada va parler davantage portugais cette année. Une aubaine pour des petites troupes comme A Turma, qui présente Turismo. Son auteur et metteur en scène, Tiago Correia, se pince encore.
La sensation est ótima.
C'est une super sensation. C'est grâce à la pandémie que je peux participer à ce festival, car elle a empêché beaucoup de compagnies de venir au Portugal. C'est un privilège parce qu'Almada, c'est le plus grand festival de théâtre national.
Ce truc est très cher. C'est une merde de partir en
vacances et se retrouver sans appareil.
Les vacances, je m'en contrefous. Ça doit être une espèce de signe.
Malgré une programmation parallèle réduite, Almada fera la part belle à la Commedia dell'arte. Cette fois, Masque qui rit ou qui pleure seront aussi dans les salles.
Welcome to the tragedy. It's not the way it's supposed to be. I know, now I'm seeing things. Saw something moving on the skin. You can talk to animals. Do little or do nothing at all. I'm a melted snowman. Try to crack the code, they all came.
Et c'est l'heure de faire du bien à nos oreilles avec vous, Vincent Théval.
Bonjour, Léalisa.
Bonjour. Vous avez choisi Is This a Dream de la jolie pop, extrait du dernier album de l'anglais Badly Drawn Boy.
Eh oui, des nouvelles de Badly Drawn Boy, le garçon mal dessiné incarné par le mancunien Damon Goff, dont le dernier album était paru en 2010, après une décennie d'intense activité partagée. Des albums, des tournées et des bandes originales de films. Trop intense peut-être, puisque Damon Goff y a laissé son couple, mais aussi sa santé physique et mentale. Après une longue traversée du désert et une patiente reconstruction, voici donc Badly Drawn Boy de retour avec un nouvel album, Banana Skin Shoes, qui évoque très ouvertement ses moments de doute au fil de chansons associant textes touchants et mélodies étincelantes, la pop à son meilleur.
Supercar, oh no, thanks Mr. Andrews for giving me the big red book of my life in the search of freedom. There's always somebody trying to pin you to the wall. Today's a good day. I found a letter from Bond I'm not seen in years. So just dry those tears. Is this a dream? It's like a disease that we all catch and see. My only dream. We gotta stop waiting for the apples to fall. And being so low. I need electronic eyeballs just to see past the truth. And give me some hope. Your heart starts beating to the sound of your dreams.
C'était This is a Dream de Badly Drawn Boy. Accent d'Europe était réalisé par Pauline Leduc aujourd'hui. Pour nous écouter à toute heure et partout, retrouvez-nous sur RFI.fr ou via notre podcast Accent d'Europe, accessible sur votre plateforme d'écoute préférée. À lundi.